rentrez dans la vie active, pensez à préparer votre retraite avec Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En France, 1750 nouveaux cas de cancer touchent les enfants de moins de 15 ans chaque année. Environ 700 autres cas se déclarent pour les 15-18 ans. Et s'ils sont rares, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants. Des pathologies différentes de celles qui atteignent les adultes, mieux soignées lorsque le dépistage est précoce. Des tumeurs face auxquelles les enfants sont inégaux selon la latitude sous laquelle ils sont nés et la qualité du système de santé de leur pays. Et si pour tous, l'annonce d'un cancer constitue un bouleversement, pour un enfant, l'onde de choc prend une dimension singulière. Elle va atteindre le jeune patient comme toute sa famille. Un parcours fait de douleurs et de découvertes, diagnostics, protocoles de soins, s'adapter au corps qui réagit plus ou moins bien au traitement, observer les larmes ou le silence des parents, l'incompréhension des frères et sœurs, ce terrible mélange d'inquiétude et de tendresse. Cette maladie va conduire aussi pour l'enfant à une première prise de contact avec l'hôpital, une rencontre avec des médecins, des infirmières, peut-être un psychologue, mais aussi des instituteurs, des bénévoles et même des clowns. La Journée internationale du cancer de l'enfant, pour en parler avec nous, docteur Jean Michon, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes pédiatre-oncologue à l'Institut Curie, président de la Société de lutte contre les cancers et leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Patricia Blanc, présidente de l'association Imagine for Margot, qui nous présentera l'album La BD qui fait du bien, publié chez Glénat. En deuxième partie d'émission, on retrouvera aussi le professeur Claude Morera, chef du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Le Dantec de Dakar au Sénégal, le professeur Morera, membre du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique dont vous êtes vous-même membre du conseil d'administration. C'est bien ça, Jean-Michel?
C'est exact, madame.
Et puis, les enfants à l'hôpital, ils y font des rencontres. On va retrouver Caroline Simons, fondatrice, directrice de l'association Le Rire Médecin, qui intervient avec son équipe de clowns. Ils sont près d'une centaine dans une cinquantaine de services pédiatriques en France. Et puis, le numéro de votre émission, Priorité Santé, c'est toujours le même, le 33 84 22 75 75.
RFI.
Alors quand on parle des cancers de l'enfant, on parle des affections malignes qui touchent les enfants de moins de 15 ans. Docteur Jean Michon, quels sont les types de cancers les plus fréquents?
Alors, il y a une multitude de cancers différents chez l'enfant. Si on prend par fréquence, il est sûr que le premier qui arrive en tête, ce sont les leucémies de l'enfant. Les leucémies lymphoblastiques sont les plus fréquentes, les leucémies dites myéloblastiques sont un peu moins fréquentes. Et derrière ce groupe un petit peu compact des leucémies arrivent, par ordre dispersé, toutes les maladies qui sont des maladies de type qu'on appelle nous de tissus embryonnaires, c'est-à-dire c'est des cancers embryonnaires, des cancers qui miment par certains de leurs aspects l'aspect du développement de l'embryon, mais dans un organe. Donc on retrouve des tumeurs du rein qui sont de l'ordre de 8%, des tumeurs de la surrénale, neuroblastome, de à peu près 8% également. Et à l'intérieur du cerveau, on peut avoir plusieurs types, une quinzaine de types de différents de tumeurs cérébrales qui ont des devenirs et des très très différents. C'est-à-dire qu'il y a des tumeurs cérébrales qui tuent presque toutes les fois les patients qui en sont touchés, les tumeurs du tronc cérébral en particulier. Et puis d'autres tumeurs qui sont des tumeurs qui sont presque considérables, qu'on peut considérer quasiment comme bénignes dans leur structure et dans leur multiplication, mais qui sont mal placées, hein, et dont les traitements reposent également sur la chimiothérapie et parfois la radiothérapie. Donc il y a une foule de maladies différentes qui n'ont rien à voir avec les cancers de la tube.
Alors précisément, pourquoi ces cancers des enfants n'affectent pas les mêmes organes ou cellules que celles qui touchent, on va dire, les grands, docteur Jean Michon? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors la question relève de la problématique de l'explication. Pourquoi ce cancer? Pourquoi ce cancer survient? Il survient à cause d'un dérèglement cellulaire. Ce dérèglement cellulaire peut être déjà inscrit dans les gènes de l'enfant. Pourquoi un enfant ferait-il un tumeur de la rétine avant l'âge de 1 an s'il n'y a pas quelque chose à bord de son organisme qui fait qu'il peut développer non seulement un cancer de la rétine d'un côté, mais aussi de l'autre côté? Et on a la réponse maintenant, depuis une trentaine d'années, parce qu'on a identifié un gène très important dans la multiplication cellulaire, qui est le gène du rétinoblastome, qui s'appelle le gène du rétinoblastome, et qui est muté donc sur un des chromosomes hérités des parents, un des chromosomes 13 hérités des parents, qui est muté, c'est-à-dire qu'il est anormal. Et du fait qu'il est anormal, on développe ce cancer. C'est un des très rares cancers de l'enfant pour lesquels il y a une corrélation très stricte entre un gène qui est muté, donc le programme cellulaire de toutes les cellules de l'organisme qui est anormal, et le cancer.
Ça veut dire que là, il peut y avoir dépistage ?
Alors, il peut y avoir un dépistage
quand
on sait que l'enfant est porteur. C'est-à-dire que l'enfant est le fils ou la fille d'une personne qui a été soignée dans l'enfance, et le dépistage, là, est très très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fait dès la première semaine de vie. Donc là, il y a une réalité, une possibilité de dépistage, et ce dépistage va permettre de conserver l'œil et de conserver probablement la vision, puisque le diagnostic est fait précocement.
Alors vous le dites, c'est rare de pouvoir faire ces dépistages, ça veut dire que pour les autres enfants, on se rend compte comment, quand du cancer, il y a des signes,
docteur Jean-Michon ? Il y a des signes du cancer, il y a des masses qui sont visibles, hein, lorsqu'on a une masse dans le ventre.
Ça veut dire que c'est déjà avancé.
Et c'est avancé, donc, et c'est parfois plus avancé quand c'est une masse dans le thorax, parce que cette masse ne parle pas, elle ne fait pas de symptômes, elle n'entraîne pas de symptômes, sauf si elle comprime les bronches, hein, donc ou la trachée.
Pour parler clairement, l'enfant n'a pas mal, hein, il se plaint pas, mais
il n'a pas mal.
C'est en se touchant ou si la maman le
manipule.
C'est
pendant le bain. Voilà. Les tumeurs du ventre sont diagnostiquées pendant le bain. Hein, la maman, en passant le savon ou le gant de toilette sur le ventre de l'enfant, ou en faisant une caresse, s'aperçoit qu'il y a une masse au niveau du ventre. Le papa aussi, parfois.
Bien sûr, les câlins, c'est pour tout le monde.
et d'autres situations peuvent être des situations beaucoup plus bruyantes. Hein. Les leucémies sont souvent diagnostiquées parce que l'enfant a une fièvre, et on s'aperçoit que l'origine de la fièvre tient au fait qu'il n'y a pas assez de globules blancs normaux, et qu'il y a dans le sang énormément de globules blancs qui sont anormaux.
Donc là, il y aura une prise de sang,
il y aura une prise de sang et des analyses.
Alors on va vous retrouver dans un instant, docteur Jean-Michon, tout de suite, ce témoignage. Ce témoignage, c'est celui d'Amir que Philippine Lebret a rencontré. Amir a aujourd'hui 12 ans. Un cancer du cerveau lui avait été diagnostiqué. À 10 ans, opéré à Paris à l'hôpital Rothschild, il a été soigné à l'Institut Curie. Et Amir est en rémission depuis 6 mois maintenant.
C'était entre le jour de l'an et Noël. On se promenait dans la rue avec ma mère et je dis « Maman, je vois double ». Alors, on va chez un ophtalmologue et elle dit à ma mère que il faut aller aux urgences, sans dire ce que c'était, parce que je pense qu'elle savait pas. Donc on est allé aux urgences le lendemain très tôt à l'hôpital Rothschild, qui m'ont examiné après 5 heures d'attente, et on me déclarait que j'avais une tumeur. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce qui m'arrivait. Qu'un enfant de 10 ans pourrait avoir une tumeur, je pensais que c'était pas possible. Après le diagnostic, on m'a fait deux opérations. La première fois, c'est pour voir la tumeur. La deuxième fois, pour enlever une tumeur. L'autre, on l'a coupée en deux. Je me sentais pas du tout bien après les opérations. J'étais notamment très fatiguée. J'arrivais pas très bien à parler. J'arrivais pas très bien à marcher. Pas du tout, même. Il fallait soit en fauteuil roulant, soit que mes parents m'aident. Plus j'avais des insomnies, j'avais du mal à dormir la nuit, donc ça me paraissait très très long. J'avais qu'une idée en tête à ce moment-là. Quand est-ce que je sortais ?
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
5 semaines après mes opérations, mon rétablissement, on m'a transféré à Curie. C'est un hôpital pour le cancer. Pour commencer, j'ai eu deux chimios faibles, qui n'engendre pas des causes comme la perte des cheveux ou le manque d'appétit. Pendant une semaine, j'en ai eu 5 par jour. Et c'était forte, très forte, qui pouvait me procurer des nausées ou la perte des cheveux, des déficits cohérents au cerveau. Cette chimio fatiguait beaucoup et je dormais pendant 5 heures.
Et au total, tu as resté combien de temps à l'hôpital ?
J'ai l'impression 2 mois. Mais pour moi, ça m'a paru super long. très très lent. Je regardais beaucoup la télé parce que je préfère que ça en fait. Je peux pas lire, j'ai pas assez de concentration. C'est Adeline, mes yeux, ils étaient trop fatigués. Mais mes parents me faisaient rire. J'avais beaucoup de gens qui venaient me voir, qui m'offraient des cadeaux. Il y avait des clowns aussi le vendredi qui passaient. J'ai eu ma famille qui est venue exprès du Maroc pour ça. Mon cousin qui a le même âge que moi, qui habite en Suisse, venait trois fois par semaine, même s'il avait école. Ça m'a beaucoup aidé.
Comment ça se passait quand tu étais à Curie, les relations avec les autres enfants qui étaient aussi à l'hôpital?
En fait, on n'essayait pas de parler de la maladie. Et voilà, et on se marrait. Et puis on critiquait les infirmières. Et ils étaient trop gentils, du coup, c'est pour ça qu'on les critiquait. Parce que ils étaient trop gentils. À un moment, il y a un copain qui m'a dit, j'étais avec lui dans sa chambre, et puis il disait, alors je vais te mettre une perfusion. Mais arrêtez d'être gentil, 2 minutes. Alors, il y en a un qui est revenu, il a dit, il est revenu avec une seringue, il a dit, bon, maintenant je vais te faire une piqûre. Finalement, j'ai commencé à accepter cette maladie, à l'accueillir. Et on me disait, Amir, t'as une ponction lombaire. Bon, d'abord, je pleurais, je tapais des pieds, je hurlais, voilà. Et après, je me dis, c'est la vie, je suis obligée. Si je veux revoir mes amis, si je veux revoir ma famille, si je veux re-avoir une vie normale, il faut que je le fasse.
Et par rapport à la question de la mort, est-ce que parfois tu te posais cette question-là?
Non. Franchement, non. Je pensais pas à la mort parce que je savais que j'avais des... Parce que mes parents me disaient, c'est les meilleurs médecins du monde. Et même quand je suis arrivée, docteur Daniel Orbach, il m'a dit le plus gentil docteur du monde, c'est moi, d'accord? Et du coup, je lui ai fait confiance.
T'avais quelle relation avec ce médecin?
On était complices. On faisait des blagues, tout en m'auscultant, et puis ça me faisait oublier que je me faisais ausculter. Pour m'expliquer les choses, il expliquait, mais il expliquait bien. Ben, c'est pas comme un prof de maths dans un collège. Je comprends pas, il me réexplique. Je comprends pas, il me réexplique. Je comprends pas, il attend un jour que je comprenne. Et si je comprends pas, il me réexplique.
Et comment est-ce que les médecins, ils t'ont dit que t'étais en rémission?
Ils me l'ont annoncé comme ça. Alors moi, quand j'ai entendu, je me suis levée et j'ai fait « We want a champion, my friend !»
Parce que qu'est-ce que t'as ressenti quand tu as compris que t'étais en rémission?
Une vague de bonheur, je suis pas poète. Une vague de bonheur m'a subjugué, ça. Pour moi, être en rémission, c'est comme avoir gagné les JO ou la Coupe du Monde. Puissance 10.
À qui est-ce que tu parles encore de la maladie?
Ceux qui me posent la question. Genre, il y a des quatrièmes qui viennent. C'est vrai que t'es tombé malade? Je dis, oui, j'ai eu un cancer, c'est tout. C'était bête, mais voilà. Comme si c'était rien du tout. Les gens sont tellement choqués que ils partent. En fait, je réponds surtout ça quand j'ai envie qu'on fiche la paix. Et puis, j'essaye beaucoup d'oublier, parce que ça me fait du bien. Ça me permet de me sentir comme les autres, comme avant.
Amir, 12 ans, grande forme avec Philippine Lebret. On vous retrouve, docteur Jean Michon. On entend un enfant hospitalisé pris en charge pour un cancer. Ça implique toute une communauté. Ça dépasse, bien sûr, les seuls médecins. Il y a la maladie, il y a l'entourage et puis il y a tout ce qui se passe autour. Les relations avec les enfants, ces gens qui viennent, des professionnels. C'est vraiment un petit monde à part.
Alors, c'est un monde à part, mais c'est surtout un monde qui doit laisser se poursuivre la vie de l'enfant. Et c'est notre principe fondateur du service où j'ai travaillé pendant maintenant presque 30 ans. Et c'était Monsieur Jean-Michel Zucker qui dirigeait ce service. Et c'était un service, et c'est toujours un service, où la vie doit être présente à tous les niveaux. C'est-à-dire que la vie, le respect du sommeil de l'enfant, le respect de la nécessité de prendre son petit déjeuner le matin, d'aller à l'école, d'aller en salle de jeu quand on est plus petit, de faire des activités d'éveil, et les activités artistiques, comme on les a maintenant depuis quelques années avec un atelier d'art plastique. C'est des choses qui sont indispensables à ce que les enfants puissent se reconstruire, puissent garder intègre leur intellect malgré les traumatismes chirurgicaux qui ont été évoqués ici par Amir. Et il n'a pas parlé de la radiothérapie, il a parlé de la chimiothérapie, mais toutes ces choses-là sont des choses qui sont quand même éminemment destructrices pour la personne en tant qu'être et qui peuvent l'être sur la personnalité. Et l'important est de maintenir cette personnalité, d'intégrer la famille, d'intégrer les frères et sœurs, les amis, et que la vie soit présente.
Alors les thérapies, vous parliez radiothérapie, il parlait chimiothérapie. Oui. Tout ça est déterminé par la nature de la maladie. Comment est-ce que se décide, docteur Jean Michon, le protocole?
Alors chaque enfant est différent, mais pour chaque enfant, on a une possibilité de se reporter à ce que nous appelons, nous, des protocoles, qui sont des recettes de cuisine, hein, qui nous donnent la possibilité de donner la meilleure chance à un enfant de guérir ou à de survivre le plus longtemps possible à sa maladie lorsque on pense que cette maladie va malheureusement l'emporter et qu'on le sait dès le diagnostic, ce qui est heureusement très rare. Cette mise en musique de ce travail collectif se fait à travers ce que nous appelons, nous, des réunions de concertation pluridisciplinaire, où se réunissent les médecins pédiatres-oncologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les pathologistes qui ont fait le diagnostic de la maladie, et surtout également les personnes qui font de l'imagerie, c'est-à-dire les radiologues, les médecins de médecine nucléaire. Et l'ensemble de cette communauté peut regarder la totalité du dossier et se positionner pour dire qu'est-ce qui va être le mieux pour cet enfant. Et après, de le proposer aux parents et à l'enfant, naturellement, s'il est en âge de pouvoir comprendre le traitement.
Avec des questions, des problématiques particulières dues justement à ce jeune âge. Par exemple, docteur Jean Michon, certains traitements peuvent menacer sa fertilité future. Comment on prend ce genre de décision?
Cette décision, elle est malheureusement souvent... une décision qui est formelle sur le thème nous savons que la fertilité va être endommagée, qu'est-ce qu'on peut faire au moment temps zéro pour préserver cette fertilité? Soit on a des moyens à ce moment-là pour préserver la fertilité, et il faut qu'on le fasse avant de commencer les traitements. Ce qui n'est faisable que pour les préadolescents et les adolescents garçons, pour lesquels on peut préserver du sperme, congeler du sperme, avant toute chimiothérapie. Il faut le faire avant tout traitement. Une goutte de rien du tout suffit à ce que la préservation soit de mauvaise qualité. Pour d'autres situations comme les petits garçons ou les petites filles qui sont prépubères, on commence à avoir des moyens qui ne sont pas de la science-fiction, qui sont de prélever soit un ovaire et de congeler un ovaire prépubère pour en faire plus tard des ovules pour la personne qui va être guérie, soit de prélever des fragments de testicules qui vont être congelés et utilisés plus tard. Et il y a un autre élément, qui est un élément qui, moi, me semble capital, qui est le fait qu'on altère parfois la fertilité, aussi bien des garçons que des filles, de façon incomplète, ce qui fait qu'ils ne seront pas fertiles pendant la période de vie pendant laquelle ils devraient être fertiles, ou ils pourraient être fertiles. Donc, on a ce qu'on appelle une étroitesse de la fenêtre de fertilité. Et pour ces personnes, qui ont donc une certaine fertilité, mais qui peuvent pas l'exercer parce que à 18 ans, on n'a pas envie d'avoir des enfants nécessairement tout de suite. D'abord, il faut avoir un conjoint, il faut avoir la vie. Vous savez, les premières grossesses sont au-delà de 20 ans, hein, bien au-delà.
28 ans en moyenne environ. Hein,
donc, on est bien au-delà. Eh bien, c'est de donner à ces personnes qui sont guéries d'un cancer la possibilité de préserver leur fertilité avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire, soit avant le traitement, ça j'en ai parlé, soit après le traitement, sur une période limitée où ils ont une fertilité. Et ça, c'est particulièrement important et c'est indispensable que l'ensemble des acteurs du soin
soient conscients de
ça, et les parents et les patients.
Docteur Jean Michon, vous restez avec nous. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler des cancers des enfants, notamment l'inégalité face à la maladie en fonction du lieu où justement ces enfants sont pris en charge. Le numéro de l'émission, 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et nous retrouvons donc pour cette seconde partie de Priorité Santé. On parle des cancers de l'enfant à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant et de l'adolescent. Toujours en notre compagnie en studio, le docteur Jean Michon, pédiatre oncologue à l'Institut Curie. Alors, d'après une étude qui a été publiée au mois d'avril dernier par la revue The Lancet, le nombre de cancers de l'enfant aurait augmenté de 13% environ en l'espace d'une vingtaine d'années, docteur Jean Michon. Est-ce que le meilleur dépistage, c'est la seule explication ?
Alors, pour moi, il y a une vraie problématique avec ce papier qui a été publié dans Lancet, qui est une comparaison de choux et de carottes. On a pris une étude, qui a été une étude faite pour voir quelle était la réalité des cancers à une période donnée. Et vraisemblablement, suite à une demande des reviewers, il a été demandé de comparer les résultats de cette étude à une étude précédente qui ne regardait pas les mêmes zones dans le territoire mondial. Pas toutes les mêmes zones, il y a un certain nombre de zones qui sont pareilles et puis d'autres zones qui sont différentes. Et on arrive à des paradoxes incroyables quand on regarde en détail cette étude sur le fait que, par exemple, dans certaines régions, comme en Afrique, il y aurait une diminution des cancers. Et on arrive à donc des conclusions qui sont complètement erronées, puisqu'on ne regarde pas les mêmes zones géographiques, et on compare des choses qui ne sont pas comparables. Ça fait le buzz, ça peut emmener à des fausses conclusions. La vraie question, et la chose la plus importante qui, moi, me semble à retenir de cette étude, c'est que les disparités qui existent entre les différentes régions du globe montrent que lorsqu'on regarde ce que l'on peut voir, on voit que la partie émergée de l'iceberg. Quand on regarde ce qui se passe dans des pays très développés, on voit une quasi-totalité de la réalité des cancers tels qu'ils sont diagnostiqués et soignés. Il manque toujours, dans cette réalité, des parties immergées qu'on ne voit pas, des diagnostics de cancer qui pourraient être faits post-mortem parce que la personne est décédée d'un accident, mais qui ne sont pas faits. Et dans d'autres pays, donc bien moins avancés, on ne voit pas apparaître tant que cela les tumeurs cérébrales qui ne sont pas prises en compte. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas à l'hôpital. Les enfants qui ont des tumeurs cérébrales, dans pas mal de régions, n'arrivent pas à l'hôpital parce qu'ils meurent dans un tableau qui ressemble à un tableau d'encéphalite de Palu en Afrique ou qui ressemble à un truc post-traumatique dans d'autres pays, et on n'en fait pas le diagnostic parce qu'il y a beaucoup moins de scanners, beaucoup moins d'IRM. Donc je pense qu'il faut prendre avec beaucoup, beaucoup de prudence cette comparaison de deux périodes à 20 ans d'intervalle où les méthodes diagnostiques n'étaient pas les mêmes et où, en plus, les zones géographiques qui ont été étudiées n'étaient pas les mêmes.
Alors, justement, c'est la question des registres des cancers qui se posent, registres pédiatriques qui existent en France. Justement, est-ce qu'on a des données fiables au niveau international, docteur Jean-Michon ?
Alors, au niveau national, on a des données qui sont très fiables maintenant. Aux États-Unis, on a des données qui sont également fiables, et dans beaucoup d'autres pays maintenant. Mais au niveau international, on n'a pas de données fiables. On sait que dire la méconnaissance dans laquelle on est de la réalité du cancer, puisque les systèmes de soins ne permettent pas de capter l'ensemble des cas pour les soigner, puisque on n'est pas capable de les guérir dans pas mal de pays. Et comme on n'est pas capable de les guérir, on a une inversion du rapport. Hein. En France, près de 80% ou un peu plus de 80% des enfants sont vivants après diagnostic du cancer à 5 ans. Dans les pays africains, c'est plutôt 20% qui sont vivants à 5 ans du diagnostic.
Énorme disparité. Justement, est-ce qu'on a une amélioration de ce que l'on peut appeler la durée de survie des enfants atteints du cancer ? Là, je vais revenir à la situation en France.
Alors, en France, on peut, plutôt que de parler d'amélioration de la durée de survie, qui est souvent un paramètre utilisé pour les cancers des adultes, où un médicament, par exemple, est autorisé lorsqu'il permet de bénéficier d'une survie supplémentaire de quelques semaines ou mois, on parle de survie et pas de durée de survie chez les enfants. On a des pathologies chez l'enfant où la probabilité, donc la chance de survivre et de ne pas avoir de rechute, donc, est supérieure à 90%. Dans certains lymphomes, donc des cancer des ganglions, qui sont des formes un peu particulières, je dirais pas de leucémie, mais qui sont des atteintes des ganglions, mais c'est les mêmes cellules que dans la leucémie, hein, ou dans la maladie de Hodgkin, ou dans le néphroblastome, ou dans le rétinoblastome, on avoisine les 90 à 100% de guérison.
Alors, on l'a dit, hein, des écarts importants entre pays. On va justement retrouver en ligne de Dakar le professeur Claude Morera. Claude Morera, bonjour.
Bonjour, madame Paré.
Vous êtes le chef.
Bonjour, Jean.
Bonjour Claude.
Vous vous connaissez parce que vous avez travaillé ensemble. Vous êtes le chef du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Le Dantec de Dakar au Sénégal, membre justement de ce fameux groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique auquel appartient également le docteur Michon. Combien de cas de cancer, professeur Claude Morera, sont diagnostiqués chaque année au Sénégal?
Alors, au Sénégal, nous diagnostiquons, si je prends en compte les chiffres de l'année dernière, de 2017, en 2017, nous avons diagnostiqué 234 cas de cancer. Donc, en moyenne, 200 nouveaux cas sont diagnostiqués parce qu'ils arrivent dans nos unités. En sachant quand même que la prévalence, enfin le nombre de cas de cancer attendus chaque année au Sénégal serait d'environ 600 à 800 nouveaux cas.
Et comment se passe la prise en charge de ces jeunes patients chez vous à Dakar, professeur Morera?
Alors, la prise en charge formelle, je dirais, elle s'est organisée depuis l'an 2000 et est marquée par un certain nombre de faits. Tout d'abord, la création d'une unité en tant que telle qui a permis de regrouper les ressources humaines et les moyens matériels disponibles, mais surtout la création du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique dont on est en train de parler. Ce groupe a permis de développer d'abord l'activité d'oncologie pédiatrique, en sachant que l'objectif de ce groupe, c'est de le développer dans toute l'Afrique. Et pour ce faire, il a été mis en place des protocoles de traitement des principaux cancers de l'enfant. Actuellement, nous avons 5 protocoles de traitement qui nous permettent de traiter à peu près 80% des cas qui sont hospitalisés dans nos unités. Le groupe a aussi organisé les soins, formé le personnel dans le cadre de l'école africaine d'oncologie pédiatrique. Mais il y a d'autres événements qui ont marqué depuis 18 ans la prise en charge, enfin l'évolution de l'activité de l'unité. Et en particulier, au niveau local, l'implication de nombreuses associations de la société civile, de certaines fondations comme la Fondation Anne-Marie John. Et dans le cadre de la collaboration internationale, surtout, de grandes actions, et je voudrais d'abord citer les actions menées dans le cadre du programme My Child Matters par la Fondation Sanofi Espoir. Et dans le cadre de ce programme, qui est un programme mondial, pour ce qui est du Sénégal, ce programme a permis d'abord de réhabiliter l'unité d'oncologie pédiatrique, de former une partie de nos médecins. Actuellement, 4 médecins ont été formés grâce à ce programme. Il finance aussi le programme de soutien psychologique des enfants, des familles, le soutien aux familles. D'autres programmes sont soutenus par la Fondation Sanofi, à savoir le programme sur le rétinoblastome. Et puis, nous sommes en train de mettre en place un grand programme national de décentralisation de l'activité d'oncologie pédiatrique dans le pays pour pouvoir justement atteindre plus d'enfants qui ont un cancer.
Avec professeur Claude Morera, la problématique du dépistage, hein, parce que souvent, le diagnostic est trop tardif.
Et c'est un peu ce que nous sommes en train d'essayer d'améliorer à travers un tout nouveau programme qui est celui financé par la Fondation BMS. Et dans le cadre de ce programme, justement, le premier objectif, par le biais de formation, ce sera d'essayer d'améliorer au mieux le diagnostic précoce. Et puis ce programme aussi a d'autres objectifs, informer le personnel paramédical en particulier, parce que cette partie de l'équipe qui prend en charge les enfants ne doit pas être au second plan, puisque c'est elle qui fait les soins, et c'est vraiment un des groupes les plus importants de cette prise en charge des enfants atteints de cancer. Et développer la formation dans le cadre de la pluridisciplinarité, en sachant que le traitement d'un cancer d'enfant, ce n'est pas que de la chimiothérapie, c'est pas que l'oncopédiatre, c'est de la chirurgie, c'est de la radiothérapie, c'est du diagnostic par les anapathes et les imageurs médicales. Et puis une chose dont il faut pas oublier, c'est qu'en Afrique, il y a un taux d'abandon très important, de perte de vue, du fait de la pauvreté des familles d'une part, et puis aussi de l'éloignement de beaucoup de facteurs. Et ce programme, financé par la Fondation BMS, vise aussi à diminuer le taux d'abandon et de perte de vue de ces enfants.
Merci infiniment, professeur Claude Moreira, chef du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Le Dantec de Dakar au Sénégal. Merci, docteur Jean Michon. Important hein, que justement les traitements soient suivis, les enfants soient suivis pour qu'il y ait vraiment une optimisation des résultats de tous ces efforts qui ont été engagés par les soignants, mais aussi par la famille, mais aussi par le patient.
Oui, naturellement. Ce qu'on peut dire, la seule chose que je peux rajouter à ce qu'a dit Claude, qui effectivement est dans l'action au Sénégal, c'est qu'il y a un besoin grand et immense, je dirais, de l'aide associative. Monsieur Moreira a cité la fondation BMS Monde qui aide à créer cet institut africain d'oncologie pédiatrique, hein, de formation à l'oncologie pédiatrique. C'est hyper important qu'on ait d'autres sponsors pour aider non seulement la formation des soignants, mais qu'également plus de maisons de parents soient placées à côté des services hospitaliers et qu'on évite l'abandon, puisque les familles sont une grande précarité, toutes, et le cancer ajoute à la précarité, comme ça le fait également en France.
Alors justement, les parents, on va donner la parole à une maman d'enfant malade. Elle nous appelle du Sénégal, de Dakar, c'est Brigitte. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour.
On écoute votre témoignage.
Alors, je suis la grand-mère.
La grand-mère.
Oui, la grand-mère d'une petite fille qui a maintenant 10 ans, qui a été prise en charge aux environs de mars, je ne sais plus la date exacte, 2016, qui était porteuse d'un méduloblastome. On s'est aperçu qu'elle avait des problèmes. C'est les parents hein, qui s'en sont aperçus, qu'elle avait des problèmes de marche, des problèmes de vision. Donc, c'est quand même relativement important. Et ils l'ont conduit à l'hôpital de Calais, où ils habitent. Et on lui a fait un scanner et elle n'a plus quitté l'hôpital. Elle a eu une prise en charge extrêmement rapide. Elle a été transportée en hélicoptère immédiatement à l'hôpital de Lille, où elle a été prise en charge. Donc, on a refait un scanner, on a fait des IRM aussi, mais je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou plus tard. Et on a vu qu'elle avait une tumeur, c'est au niveau du cervelet. Hein. En fait, on a fait plus tard, donc à l'hôpital, qu'elle n'a pas quitté, un prélèvement. Et c'est là qu'on a vu un méduloblastome. Alors le problème, c'est que quand elle s'est réveillée, elle était complètement hors de conscience, elle ne parlait plus, etc. Donc on lui a fait des traitements en chimiothérapie qu'elle supportait plus ou moins bien, parce que c'est toujours désagréable, elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus, etc.
Brigitte, donc, aujourd'hui, votre petite fille a toujours des traitements. Comment va-t-elle?
Elle n'a plus aucun traitement. Elle est en rémission. Je suis allée avec elle à la dernière visite parce que j'étais en Europe à ce moment-là. On a vu le médecin et elle n'a plus de traitement du tout. Elle a un IRM tous les 3 ou 4 mois et là, on les recule de plus en plus. Elle est en rémission.
Merci beaucoup Brigitte pour ce témoignage au sujet de votre petite fille donc qui avait été prise en charge en France. Vous nous appeliez de Dakar au Sénégal, où on le voit bien avec ce témoignage, hein, docteur Jean Michon, l'importance du diagnostic et aussi l'importance, l'urgence de la réaction.
C'est clair que ce que raconte Brigitte à propos de sa petite fille est très similaire à ce qu'a raconté Amir tout à l'heure. Et ce sont pour les deux enfants des conditions très difficiles à traverser, mais en même temps une réactivité très forte de la part des équipes médicales qui les ont pris en charge. Tout n'est pas là. Ce qui est important aussi, c'est tout l'environnement, la prise en charge psychologique, la prise en charge scolaire, la réhabilitation après, pour les enfants qui souffrent de tumeurs cérébrales.
Avec donc ce protocole et puis tout ce qui est, vous le citez, autour des besoins psycho-affectifs de l'enfant, lien familial, les rythmes, les attaches. Justement, en ligne avec nous, Patricia Blanc. Bonjour Patricia Blanc.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Imagine for Margot pour sensibiliser, collecter des fonds pour la recherche sur les traitements spécifiques pour ces cancers de l'enfant. Sensibiliser, votre association l'explique, il faudrait plus de traitements innovants. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Ah oui, parce que en fait, moi, ma fille Margot, à l'âge de 14 ans, a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. C'était une tumeur incurable et on n'a pas eu accès à des traitements nouveaux, innovants dans son type de tumeur. On s'est rendu compte que malgré que le cancer soit la première cause de décès par maladie des enfants, il y avait peu de recherches sur la pédiatrie, que la recherche était essentiellement axée sur les adultes. Et donc aujourd'hui, notre combat après le décès de Margot, ça a été de créer cette association de manière à donner accès aux traitements innovants aux enfants qui ne soient pas oubliés de la recherche.
Alors ça passe par la collecte de fonds, hein, c'est un volet qui occupe aussi votre association, Patricia Blanc. Avec cet album de bande dessinée, un collectif d'auteurs de BD, hein, ils sont une quarantaine environ, l'album s'appelle La BD qui fait du bien, des histoires courtes, elles parlent pas forcément de la maladie d'ailleurs, on parle d'ailleurs beaucoup d'émotions, toutes ces émotions que l'on ressent justement dans ces services pédiatriques, la colère, la tristesse et puis aussi pas mal de super-héros.
Oui, tout à fait. Alors c'est un album qui réunit 40 auteurs de BD qui se sont tous mobilisés en faisant des petites histoires de 2 à 3 pages. Sur des sentiments d'enfants. Alors je veux préciser, c'est pas une BD pour les enfants malades. On y parle d'ailleurs très peu de l'hôpital. On y parle surtout des sentiments. Alors c'est comment retrouver le sourire quand on a le cafard, comment lui dire qu'on est amoureux quand on n'ose pas, l'histoire qui fait du bien quand on s'ennuie. C'est des petites histoires qui se finissent toujours très bien avec des petits conseils pour aller mieux. Et c'est en vente sur le web et dans les principales librairies. Et à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant aujourd'hui, si on veut faire une bonne action, il faut aller acheter cette belle BD.
Qui est publiée aux éditions Glénat. Vous faites bien la publicité pour ça, en tout cas. C'est pour une bonne cause. Merci infiniment, Patricia Blanc. Docteur Jean Michon, on citait cette insuffisance de la recherche dédiée, qui dépasse d'ailleurs votre spécialité. L'oncologie, c'est une problématique propre à toute la pédiatrie. Il y a des questions sur les traitements, les médicaments spécifiques pour les enfants et aussi peut-être pour une recherche spécifique. C'est une réalité ou c'est peut-être une vision quand on est directement plongé dans cette question. On voudrait plus, toujours plus.
Oui, Caroline, il y a quelque chose quand même qu'il faut redire, c'est que la recherche existe et cependant, il y a plusieurs types de recherches. Il y a la recherche cognitive pour comprendre les mécanismes de survenue des maladies. Et puis il y a des recherches qu'on appelle translationnelles qui sont à la jonction entre la connaissance de la maladie, des mécanismes de la maladie et les développements de traitement. Et puis il y a la recherche pharmaceutique qui va développer ces médicaments. Et ce sur quoi a appuyé Madame Blanc, c'est effectivement ce qui est à la charnière et qui est particulièrement frustrant pour les parents d'enfants, et désespérant même pour les parents d'enfants qui sont atteints de maladies dites incurables. Parce que dans les cas où on est capable de guérir, on est satisfait de la situation, quoique on devrait ne pas être si satisfait que ça, parce qu'il faudrait qu'on puisse baisser le poids des traitements pour que les enfants qui guérissent aillent mieux plus tard, donc guérir mieux. Mais évidemment, cette requête et cette demande et cette pression est tout à fait justifiée aussi pour trouver des nouveaux traitements pour les maladies qui sont actuellement encore incurables. Et ça, en ce sens-là, la recherche doit plus se coordonner pour avancer au niveau international et pas seulement au niveau français.
Alors, tout à l'heure, le témoignage de Patricia Blanc, une maman, comment se passe, on a parlé des enfants, de leur ressenti, docteur Jean Michon, comment se passe un moment dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, pourtant c'est le départ de tout, c'est l'annonce, comment se passe cette mise en relation? En même temps, quand on va voir un oncologue, on sait en général à qui on s'adresse, un spécialiste du cancer, mais il y a quand même ce moment clé, ce moment terrible de l'annonce. Comment ça se passe tant du point de vue de ce que va entendre la famille et l'enfant s'il est présent? Je ne sais pas si l'enfant est présent quand vous l'annoncez. Formellement, la séance, ce moment, c'est quoi exactement?
Cette séance, cette scène qu'est la scène de l'annonce, est quelque chose que nous n'avons pas appris à faire à l'école de médecine. Nous l'avons appris auprès de nos aînés, qui nous ont appris être empathiques, sans se mettre à pleurer avec les parents et les enfants. Et on l'a appris aussi auprès des parents. On l'a appris auprès des parents, je dirais sur le tas, parce qu'on s'est rendu compte de nos erreurs. On s'est rendu compte de notre incapacité dans certaines situations à s'adapter complètement au contexte très particulier de chacune des familles. Il n'y a pas une recette unique pour annoncer correctement.
Pour annoncer l'indicible, tout à l'heure vous disiez ce mot incurable, un enfant incurable, c'est impossible à entendre. Comment est-ce que c'est possible à dire?
On ne peut pas dire une chose pareille, certainement lorsqu'on rencontre un enfant et ses parents au diagnostic. Ce qu'on peut expliciter, c'est qu'on est dans une situation très difficile et qu'on aille ensemble sur un chemin pour expliciter plus précisément ce que l'enfant et les parents veulent entendre ou pas entendre. Rester la tête dans le sable ou avoir un côté de leur cerveau qui a compris la situation et un autre côté qui est capable de dire mais on va aller de l'avant. Si on a un qui doit guérir de cette maladie que vous dites très très difficile à soigner, pourquoi ça serait pas notre enfant? Et ça, c'est une chose pour laquelle il faut qu'on soit capable d'aller ensemble avec les parents et l'enfant sans aller au-delà de ce qui est acceptable, c'est-à-dire sans être acharné. Parce que quand on a effectivement une maladie qui est très très grave, la question qui va se poser, c'est quelle est
la limite
à ne pas dépasser, et surtout quelle est la volonté du patient et quelle est la volonté des parents, et de respecter la volonté du patient quel que soit son âge. Un enfant tout petit peut nous montrer qu'il ne veut pas qu'on s'acharne sur lui. Et il faudra faire entendre à des parents que là, c'est plus du soin, c'est de l'acharnement.
Docteur Jean-Michel, il y a un âge quand même où l'enfant, même s'il a 10 ans, il sait ce que c'est le cancer. Hein,
bien avant 10 ans.
Bien avant. Qui lui dit?
Alors nous, très souvent nous, parfois c'est anticipé par les parents, pour certains âges, parce que les enfants sont maintenant capables de lire l'endroit où ils vont aller, et de comprendre même parfois avant les parents, que le centre de traitement où ils vont être orientés, qui s'appelle l'Institut Curie là en l'occurrence, ou l'Institut Gustave Roussy, ou le centre Oscar Lambret qu'on a cité tout à l'heure, c'est un endroit où on ne soigne que des gens qui ont le cancer. Donc il ne s'agit pas de se voiler la face. Et quand des parents nous disent « ne dites pas à mon enfant qu'il a un cancer », mais je ne leur dis qu'une seule chose. Est-ce que vous savez s'il ne le sait pas déjà?
Alors, on l'a dit, hein, cette communauté des services d'oncologie pédiatrique, il y a les médecins, les infirmières, les psychologues, on devait avoir le rire médecin, ces clowns qui viennent dans les services. Hélas, difficile de joindre notre interlocutrice. On va néanmoins en parler, justement, cette communauté. C'est important aussi bien pour les soignants que pour les patients d'avoir des intervenants extérieurs.
Alors, des intervenants extérieurs, on les connaît effectivement depuis l'existence du Rire Médecin et d'autres associations comme Théodora ou comme Le Regard du Clown qui interviennent dans les hôpitaux et qui sont des distracteurs. La distraction étant une bonne manière, comme la musique par exemple, de faire du bien. La musique, ça commence déjà à être autre chose, parce que chanter, ça fait du bien par soi-même. Et il y a un autre élément dans la prise en charge globale des enfants qui est moins rebutant que l'école, et tout aussi positif et même très constructif, qui sont les ateliers d'art plastique. Les ateliers d'art plastique montrent à l'enfant qu'il est capable de créer lui-même, qu'il peut vraiment démontrer à son entourage et se démontrer à lui-même qu'il est vivant et qu'il est capable de création. Et ça, c'est beaucoup plus stimulant pour l'enfant que d'être seulement le récipiendaire de quelque chose qui est fait par d'autres. Prendre un bon coup de rigolade, ça fait du bien. Créer quelque chose, créer une œuvre littéraire dans les ateliers d'art plastique, des ateliers d'écriture ou une œuvre picturale à soi dans les ateliers d'art plastique, c'est très très positif pour l'image que l'enfant se fait de lui-même face à l'adversité.
Est-ce que la maladie, le cancer, change durablement ses enfants?
Très, complètement.
En quels termes vous le ressentez?
Il y a quelques années, il y a un film qui a été fait par Denis Guermant qui s'appelle « La vie est immense et pleine de dangers », dont l'argumentaire était précisément le fait que la maladie faisait grandir les enfants. Moi, je recommande à tous ceux qui peuvent trouver ce DVD maintenant disponible, de regarder ce film qui montre à quel point l'enfant est acteur, à quel point l'enfant grandit plus vite. Je vois des enfants qui sont encore en grande maternelle, pour lesquels je les vois déjà en CP.
Ce sont des sages, ces enfants.
Alors, est-ce qu'ils sont sages parfois?
Pas dans le côté sage, réflexion.
Alors, il y en a qui arrivent à positiver par rapport à ce qui s'est passé, puis il y en a qui restent des grands turbulents, et est-ce qu'ils auraient été turbulents s'ils avaient eu le cancer ou pas? J'en sais rien. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils restent indemnes après avoir subi les traitements de cette maladie.
On a parlé de la prise en charge des enfants, il nous reste peu de temps. Une prise en charge de la famille, c'est aussi quelque chose qui s'impose.
Bon, c'est un élément très important, hein, qui fait partie de notre métier à tous, et pas seulement le métier des médecins, les acteurs, les psys, les infirmières et les infirmiers sont partie prenante de cet accompagnement des parents. On voit, quand on est parent d'un enfant atteint de cancer, on voit beaucoup plus de temps les infirmiers que les médecins. Les médecins sont rares, sont toujours occupés. Les infirmiers sont au contact. Les infirmières sont au contact. Et donc, c'est avec eux que se fait le travail. Et s'il est mal fait, eh bien, c'est très mauvais pour la suite. Donc, il faut que vraiment, il y ait une communauté entre les parents, les soignants et tous les soignants.
De la communication. Merci beaucoup, hein, docteur Jean Michon, d'être venu dans les studios de RFI. Je rappelle que vous êtes président de la Société de lutte contre les cancers et leucémie de l'enfant et de l'adolescent. On se retrouve demain dans Priorité Santé. On parlera des émotions, de la déception, la comprendre et la dépasser. À demain.
Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure votre retraite et vous invite à la préparer efficacement dès aujourd'hui. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.